2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Amen. Voilà une histoire domestique, une histoire de famille. Chaque cadre de vie de famille est assez spécifique. Et puis même le rythme de vie de famille, ça change, ça évolue. Ça évolue avec des événements heureux. Il y a eu dans cette affaire une rencontre, l'idylle d'amour d'un homme, d'une femme, le mariage, la construction d'un foyer, la naissance d'un premier, d'un deuxième enfant, l'appel de Dieu au ministère. Cet homme, il fait partie, dans les pages précédentes, de ses stagiaires. À cette époque, au temps d'Élie et d'Élisée, il y avait une école des prophètes, la formation de serviteurs de Dieu, et il en faisait partie. C'est certainement, on peut imaginer tout le défi qu'il y a là derrière, mais la joie, la construction de tout un avenir, des gens consacrés au Seigneur. Ils avaient voué leur vie pour la cause du Maître. Et il n'y a rien de plus formidable pour eux de faire cela. On le ramène à notre époque, eh bien, on serait heureux de voir l'évolution d'une telle famille. Et puis, il y a une autre phase. On ne s'y attend pas à cela. Et on ne comprendra jamais. On ne comprendra jamais comment ça se fait que cet homme, cette famille, se trouve soudain frappé à la... vraiment touché du plus profond, quoi, dans le sens même de la vie qu'ils avaient calculé. Eh bien, ce serviteur de Dieu, elle le dit elle-même après à Élie, voilà, il est mort. On ne sait pas comment il est décédé. La Bible ne nous donne pas les détails, mais quel drame. Quel drame. Un stagiaire, fils de prophète, donc. Un homme, un croyant, une famille consacrée au Seigneur. Pour la cause de Dieu, quelque part, j'apprends et nous apprenons de cette histoire comme de bien d'autres histoires. Ce n'est pas parce qu'on est au Seigneur qu'on est préservé dans l'absolu des drames de ce monde si injuste, avec des catastrophes vraiment tellement extraordinairement douloureuses. Alors on voit maintenant cette dame qui dit, qui fait la description de son ressenti et de ce qu'elle voit de la situation. Elle dit, voilà, mon mari est mort. Je me retrouve jeune veuve. J'ai 2 enfants. Et drame pour drame, en plus, nous avons contracté des dettes pour les projets de notre vie commune. Et mon mari en était responsable en tant que chef de famille. Et lui, il est décédé. Moi, je ne veux plus rien. J'ai plus d'argent. J'ai que mes enfants. Et voilà que le créancier arrive. Il frappe à la porte. Il nous fait la pression. C'est son rôle. C'est son... Bon, lui, il pense dans sa situation, mais voilà la nôtre, comment ça va être. En plus, au vu de cette époque, si je ne peux pas payer, alors mes enfants seront enlevés. C'est pas pour mettre entre les mains, à notre époque, un assistante sociale ou de prendre quelques protections sur une famille en détresse comme cela, mais à cette époque, c'est carrément, la Bible nous dit, c'est pour qu'ils soient des esclaves. Quand on lit des récits de la Bible et qu'on se plonge, qu'on se met à la place de ces personnes, c'est tellement douloureux. C'est tellement douloureux. Une jeune dame, morte avec le décès prématuré de son mari, un avenir non assuré, une situation émotionnelle, une situation matérielle complètement désespérante. Comment s'en sortir? Je ne sais pas si au milieu de nous, cet après-midi, les uns et les autres, dans le rythme de notre vie, nous avons vécu des drames. Certainement, je pense, manière ou d'une autre, qui ne serait pas complètement applicable par rapport à cette situation, mais les drames sont là. Peut-être que si vous n'en avez pas connu vous-même, vous avez côtoyé des personnes qui sont passées par des drames. On n'a pas de mots pour dire quoi que ce soit. On ne sait pas quoi pouvoir apporter comme solution. On est aussi démunis face à ce que quelqu'un peut nous décrire comme situation de famille. Mais on a la suite du récit et il y a quelques leçons pour nous à retirer, peut-être pour appliquer à une situation qui se trouve plus ou moins similaire pour nous ou pour quelqu'un, ou pour nous préparer au cas où un jour ça peut nous arriver. Déjà, donc je dis quand même tout à l'heure que c'est le lot de tout un chacun, même pour des croyants, de passer par des situations incompréhensibles. Nous avons partagé ce matin cette notion essentielle que nous ne pouvons tenir que par la grâce de Dieu. Bon, on ne va pas y revenir. Mais il y a 4 groupes de personnes, 4 relations dans le domaine relationnel que nous pouvons voir ici. Et pour nous, cet après-midi, nous nous mettons à la place de la veuve, de cette maman. Et nous voyons qu'autour d'elle, il y a eu des relations à bâtir. Première relation à bâtir dans un drame comme ce que nous découvrons, c'est la relation avec Dieu. Bien sûr, à cette époque-là, la personne du prophète, Élisée, c'était le représentant du Seigneur. On va le voir, et d'ailleurs dans d'autres passages, on parle des prophètes comme on va voir le voyant, pas le diseur de bonne aventure ou des choses comme ça, mais c'est un des termes dans l'Ancien Testament parlant de ces hommes qui étaient des intermédiaires. Maintenant, par la grâce de Dieu, on a une libre communication avec le Seigneur par une route nouvelle et vivante en Jésus-Christ. Et c'est lui, notre intermédiaire, et on va directement vers Jésus. Mais à cette époque-là, c'est la façon de s'approcher de Dieu. Elle est allée ouvrir son cœur auprès d'Élisée. C'est important que dans nos relations avec autrui, au lieu de nous enfermer dans nos drames et nous détruire, et nous laisser nous détruire, la première des choses importantes, et je le dis pour moi-même, pour le jour où j'aurai encore des drames énormes, la première personne que chacun d'entre nous, nous devons, vers qui nous devons nous tourner, c'est vers Dieu. Elle est allée voir. Elle est allée ouvrir son cœur. Elle est allée verser toute sa frustration, sa peine, ses cris de détresse, tout. Elle a tout exprimé auprès du Seigneur. Et peut-être même, quelque part, sa révolte, son incompréhension. Et Dieu est prêt à nous accueillir. Il est prêt, il comprend nos souffrances. Concernant Jésus, il nous est dit que Jésus a vécu les mêmes épreuves de vie que nous. Donc, il nous comprend. Et nous pouvons venir vers lui. Et si on a des paroles qui vont au-delà, il peut comprendre. Il peut nous accueillir. Il est prêt à nous écouter. À nous écouter. Et c'est formidable de savoir un Dieu qui écoute. Il est prêt à nous aider, il est prêt à collaborer. Et il est prêt aussi à nous donner une direction. Et dans ce contact avec le Seigneur, au travers de ce prophète qui parlait de paroles inspirées de la part du Seigneur, le Seigneur va lui conduire à considérer un autre personnage qui est elle-même. Le personnage important dans les choses relationnelles, c'est avec Dieu. Mais Dieu nous renvoie cette femme vers elle-même alors qu'elle a décrit la situation selon son ressenti et son analyse. Mais Dieu va l'aider à fouiller davantage, en lui disant, tu n'as pas regardé suffisamment à considérer ta vie. Alors, Dieu va lui poser des questions au travers du prophète. Que puis-je faire pour toi? Le Seigneur s'approche de nous cet après-midi, chacun, dans notre rythme de vie. Et voilà une question. Et quand Dieu pose une question, parce qu'il a envie que nous puissions exprimer nos pensées. Que puis-je faire pour toi? Et puis la deuxième question, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle n'avait même pas pensé dire ce qu'elle avait à la maison. Elle avait dit différentes choses auparavant, mais elle n'avait pas considéré cela. Et Dieu lui dit, dis-moi, fouille un petit peu dans le fond. cadre de ta vie que tu penses être complètement cassé et ruiné et sans avenir, dis-moi qu'est-ce que tu as. Je pense que dans un premier temps, on pourrait dire, mais quand même, il exagère là. Hein? J'ai plus rien, j'avais dit, j'ai plus rien. Je suis en dette et j'ai plus besoin de recevoir que... Le Seigneur me demande qu'est-ce que j'ai encore, mais j'ai rien. Mais fouille encore. Hein? Regarde encore un petit peu. Et puis finalement, elle dit, j'ai quand même encore un petit vase. Un petit vase d'huile. Et je pense que Dieu veut que nous puissions évaluer aussi que nous en sommes dans notre vie. Des fois, nous sommes toujours quémandeurs en pensant que qu'on n'a plus rien, qu'il nous manque. Mais Dieu, lui aussi, nous demande, mais est-ce que tu as considéré ce que tu as déjà? Bien sûr, il va agir encore, mais déjà, on commence par cela. Alors, ne pense pas que ce que tu as, c'est négligeable. En ce moment, dans notre vie, le cadre de notre vie n'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Il n'y a même qu'un vase d'huile. Mais Dieu commence avec nous dans la situation où on est et avec ce qu'on a. Quand on vient vers lui, il démarre à partir de là. Dans l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta, c'était pareil, une histoire plus ou moins semblable. Dans l'histoire de la multiplication, c'était pareil. Hein? Quand les disciples disent, mais on n'a rien. Mais non, regardez bien, s'il n'y avait pas quelque chose, je puisse à partir de là faire quelque chose. Hein? On n'a que 5 pains et 2 poissons. Eh bien voilà, vous avez 5 pains et 2 poissons. Hein? Et si vous amenez ces 5 pains et ces 2 poissons entre mes mains, c'est le Seigneur. Ben, je vais commencer avec ce que vous avez. On a en chacun d'entre nous beaucoup plus le regard vers ce qui nous manque que vers ce qu'on a. Et le Seigneur dit non, regarde, quand même. Pierre a dit, j'ai rien attrapé. J'ai rien attrapé comme poisson, tout ça. Bon, ma vie... ma société, mon business de poisson, ça ne marche pas. Hein? Je pêchais toute la nuit. Qu'est-ce que tu as? Ah tiens, tu as une barque. Tu ne peux pas me la prêter? Tu ne peux pas quand même mettre à la disposition ce que tu as? Même si cette barque, elle est vide, il n'y a pas de poisson ni rien, mais prête-la moi. Et puis, Pierre a laissé la barque. Jésus a prêché à partir de cet outil, de cette estrade, après, vous savez comment, il a jeté le filet sur l'ordre de Jésus, sur ta parole, j'ai rien pris, mais maintenant sur ta parole, je ferai. Et le miracle s'est passé. Les choses ont été bouleversées, mais tout commence quand même par le fait que nous sommes disposés à voir que quelque part nous avons quand même, En laissant le Seigneur fouiller dans notre vie, quelque chose à mettre entre les mains du Seigneur, à investir. En fait, vous connaissez cette histoire, je reviens quand même dans l'histoire d'Élie, quand le Seigneur a demandé, qu'est-ce que tu as? J'ai un petit peu de farine, un petit peu d'huile, là je vais faire un pain, et puis après on va manger, on va mourir. Vous vous rappelez de cette autre histoire, hein? Voilà. On a de la farine, ou on a de la... Par exemple, si on a de la semence, quelques graines, on peut manger les graines, hein, et ne pas investir dans ces graines. Et quelque part, on peut dire, je me suffis de ça, je vis avec ça, et puis c'est fini. Hein. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu as? Donc là, ici, c'est de l'huile. Et voilà, si tu me donnes, si tu me comptes, confie cela. Si tu fais selon ce que je te dis de faire, eh ben, il peut y avoir un changement au travers de ce que tu as. Regarde en toi-même. Regarde dans ton cœur. Regarde au Seigneur. Regarde à toi. Et puis maintenant, le Seigneur va inviter cette femme à regarder au-delà, au dehors, vers des gens de l'extérieur. Va chez tes voisins. Va chez les autres. Et tu sais, les autres, ils ont même des vases vides. Hein? Toi, tu as un petit peu. Tu penses que tu n'as rien, mais tu as un petit peu. Mais tu sais, tu en as d'autres dehors. Qui ont même leurs vases, sont des vases vides. Va les chercher. Va les chercher. Et quelque part, Dieu veut que nous puissions regarder vers lui. Dieu veut que nous puissions considérer que notre situation n'est pas si complètement finie que cela et que entre ses mains, il peut y avoir d'une nouvelle orientation, mais il veut aussi que nous puissions ne pas être égoïstes et, comment on pourrait dire, égocentriques, tourner que sur soi, et que nous puissions considérer qu'il y a autour de nous d'autres personnes. Et pour nous, frères et sœurs, c'est aussi un défi. Souvent, quand nous venons vers le Seigneur dans nos prières, dans nos requêtes, que ce soit personnel, que ce soit ensemble, nous avons le droit, nous avons le privilège de nous approcher de lui pour nous. Mais quelque part, nous devons aussi voir que nous ne sommes pas les seuls à être dans le besoin. Et qu'il y a d'autres qui sont encore davantage dans le besoin. Et qu'on peut aller chercher aussi les vases vides pour les amener auprès de nous. Et pour faire quelque chose qui est ici extraordinaire, c'est de ce que nous avons et que nous pensons que nous n'avons pas grand-chose, nous puissions verser aussi dans les autres vases. Contribuer à remplir notre vase. Et le miracle de Dieu, c'est que non seulement notre vase continue à couler, mais que les autres vases des gens se rempliront aussi. C'est ce que le Seigneur veut nous aider à faire. Alléluia. Comme ça, ça nous permet aussi d'être dans le partage des besoins des uns des autres. Et les vases ont été remplis. Mais il y a aussi, donc on a parlé en relation de Dieu, tout ce qui est être, hein, personne. Il y a la personne de Dieu, il y a moi-même, il y a mon entourage, mais dans cette histoire, il y a aussi ma famille. Il y a les enfants, les deux garçons. Nos enfants sont c'est notre trésor. Hein. Quand nous avons une famille, je le sais, quand on parle avec les uns et les autres chaque fois, on pense à nos enfants, on parle de nos enfants, vous parlez peut-être des problèmes aussi, des défis, par exemple, les enfants qui ont besoin de découvrir le Seigneur. D'autres qui, malgré qu'ils ont entendu la grâce du Seigneur, n'ont pas encore pris une décision pour le Seigneur, etc. Et d'autres situations, c'est nos enfants, ce sont nos trésors. Et le Seigneur, par la bouche du prophète, va demander à cette femme de faire des gestes de foi, un geste de foi, d'aller remplir ses vases. Et il implique aussi les enfants. C'est plutôt cette femme, hein, qui a pris aussi cette initiative dans le sens où le miracle, elle a proposé, mais elle a dit, hein, voilà, mon fils, allez, va, cherche. Et puis, aide-moi. Et ils ont fermé la porte, ils ont fait ces choses-là, les deux enfants. Et quelque part, je pense que Dieu nous encourage, à chacun d'entre nous, à inclure nos enfants, autant que cela peut se faire, pour les entraîner avec sagesse, avec grâce, avec doigté, de les inclure dans l'expérience de la foi. Ça doit marquer les enfants. Quand ils ont vécu ensemble ce miracle de l'huile qui coule, ils ont été au bénéfice de tout cela. Ils ont été au bénéfice de voir le courage de leur maman, de voir la persévérance de leur maman. Et ça, ça les marque. Je ne connais pas profondément encore la situation de tout un chacun d'entre vous au point de vue familial. Mais s'il y a quelques défis pour vos enfants, eh bien que cet après-midi encore plus que jamais, nous puissions croire que le Seigneur nous aime. Le Seigneur aime et veut prendre soin de notre cadre de vie. Il aime notre postérité, nos enfants, où qu'ils soient en ce moment dans le rythme de leur vie. Et que nous essayons, autant que nous pouvons en tant que parents, et avec son inspiration, avec sa sensibilité, faire au maximum pour inclure, pour inviter avec grâce nos enfants à toucher du doigt quelques expériences, quelques façons d'être comme expérience des choses de Dieu. Que Dieu nous donne la sagesse. Parce que quelquefois, on le fait de telle manière que ça, c'est pas suffisamment sage. Et ça bouscule les enfants. Nous ne sommes pas les uns les autres des parents parfaits, loin de là. Nous apprenons en même temps que nous éduquons et que nous prenons soin de nos enfants. Donc, on fait aussi des réévaluations de notre manière de faire. Mais Dieu est là pour nous aider. Nous pouvons toujours prier, venir vers lui, nous tenir auprès de lui et au fur et à mesure des circonstances, recevoir de lui quelques façons de faire. Quelques pensées, quelques phrases, quelques mots, quelques gestes qui va marquer nos enfants, qui va les entraîner dans le domaine de la foi. Et quand à la fin de ce récit, le prophète a pu dire, bon, eh bien voilà, le Seigneur t'a aidé. Vends cette huile, paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils. C'est formidable ça. Tu vivras, toi et tes fils. Bien sûr, tout n'a pas été réglé. Le drame du décès est toujours là. Les cicatrices peuvent rester sur notre vie par des saisons de drame, mais la vie continue. Dieu nous aidera toujours. Et Dieu nous aidera dans la nouvelle saison à rebondir. Surtout, ne faisons pas comme certains qui ne connaissent pas Dieu, qui ne se tournent pas vers leur Élysée, qui se renferment en eux-mêmes dans une amertume, dans une rébellion contre tout ce qui est autour. Et partout où ils passent, ils ne sèment que l'amertume de leur propre cœur, déchiré et abattu. Ça, c'est le monde. C'est le monde sans Dieu. Mais ceux qui veulent inclure le Seigneur, bien Dieu va les aider. Voilà quelques réflexions pour nous cet après-midi. Je pense que le Seigneur peut, dans la découverte de ses récits, parler au-delà de ce que j'ai pu dire, pour que le Seigneur prenne ses paroles pour nous appliquer et pour faire ressortir quelque chose qui puisse apporter dans les circonstances de notre vie, de notre entourage, que ce soit avec nos enfants, que ce soit pour nous-mêmes ou pour l'autre, eh bien, de laisser le Seigneur agir. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen.